Bonjour et bienvenue sur Radio Alma. Nous sommes la classe de 6e Eva et nous allons vous présenter notre gazette.
Les jeunes d'aujourd'hui sont matrixés par TikTok, Instagram et YouTube. Sur ces réseaux sociaux, nous voyons défiler une marée de bics Legami, les crop tops, de pubs pour le jeu Brawl Stars et des gourdes Air Up ainsi que de vêtements Carhartt.
Bics Legami, sac Goyard, pantalon large, basket, crop top ou encore gourdes Air Up sont à la mode. Dans les écoles, la mode et les tendances sont bien présentes, que ce soit sur TikTok, YouTube et Instagram. On retrouve la mode partout via les influenceurs, qu'ils soient adultes ou même adolescents. Une fois qu'une ou un influenceur porte des nouvelles baskets ou fait la promotion de celles-ci, l'information fait le tour du monde. Telle une vague, elle peut rester des années ou seulement se retirer après quelques mois. La raison qui pousse à suivre ces tendances, c'est le sentiment d'appartenance et la volonté de se sentir dans le coup. Les tendances vont et viennent, mais le plus important est de se rappeler qu'il faut rester fidèle à soi-même.
Attention au retour des coups de soleil. En 2024, 70% des jeunes âgés de 12 à 18 ans en ont été victimes. Avec l'apparition des premiers rayons, les jeunes souhaitent faire bronzette sans se rendre compte des conséquences.
Mais qu'est-ce qu'un coup de soleil ? Face au soleil, notre peau réagit en produisant de la mélanine, un pigment coloré fabriqué par nos cellules pour se protéger des rayonnements nocifs, les UV. Si la peau ne produit pas assez rapidement de mélanine, bonjour les brûlures. Quand l'indice UV est supérieur à 3, il faut se protéger avec de la crème solaire et se couvrir la tête. On pense à tort qu'appliquer de la crème solaire empêche de bronzer, mais c'est faux. Elle complète le rôle de la mélanine. Si on ne se protège pas suffisamment, cela peut engendrer de graves conséquences telles que le cancer de la peau. Selon une enquête réalisée par les organismes Euromélanoma et la Fondation contre le cancer, 70% des jeunes âgés de 12 à 18 ans ont été touchés par des coups de soleil. Parmi ces jeunes, 60% n'appliquent de la crème solaire que lorsqu'ils sont en vacances. Des habitudes qu'il faut changer, car il faut se protéger également dans la cour de récréation, au parc, etc. Contrairement aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux, se protéger la peau n'empêche pas de bronzer.
Ce 17 mai 2025, une marche de fierté a été organisée à Bruxelles. La population défendant les droits des personnes LGBTQIA+, sont descendues dans les rues pour se joindre à la manifestation.
Le 17 mai, les rues de Bruxelles étaient envahies de drapeaux arc-en-ciel pour l'occasion de la Gay Pride. Cet événement est organisé chaque année à la même date. Celle-ci coïncide avec la date de la Journée mondiale contre l'homophobie. Elle n'a pas été choisie au hasard, puisque la Gay Pride est un mouvement qui défend les droits des personnes LGBTQIA+. De qui s'agit-il, LGBTQIA+? C'est un acronyme qui représente les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles. Le plus veut dire qu'il existe encore d'autres façons d'aimer et d'être soi-même. Ces manifestations sont très importantes dans notre monde actuel car certains pays sont très progressistes sur le sujet, mais d'autres le sont beaucoup moins. Et on constate que leur liberté y régresse. Faire partie de la communauté LGBTQIA+, peut même y être dangereux car cela peut mener à la prison ou à la peine de mort, comme en Iran, en Somalie ou en Arabie Saoudite. Cette année, environ 220 000 personnes ont préparé à la Pride pour soutenir l'amour et la liberté.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas, Owen et Valentina du Cirque Bouglione. Et voici les questions que nous avons préparées.
Bonjour Thomas, comment s'est passée votre intégration dans le monde du cirque, sachant que vous n'êtes pas issu d'une famille de circassiens ?
Eh bien bonjour, alors ça a été très magique, mais aussi un peu compliqué, je dois l'admettre, parce que quand on arrive dans le milieu du cirque, il faut savoir que moi j'étais comme vous, je vivais dans une maison, j'allais à l'école, j'avais une vie tout à fait normale, et quand je suis arrivé dans le monde du cirque, c'est un autre monde. C'est rempli de langues différentes, hein. On a de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol, on a toutes les langues possibles. Donc c'est un peu compliqué à s'y adapter, puis c'est une autre façon de vivre aussi, hein. C'est vivre, ne plus vivre en maison, c'est vivre en caravane. Et donc ça a été magique, moi ça a toujours été mon plus grand rêve, c'est de travailler pour Bouglione. Voilà, donc moi je l'ai perçu de façon magique.
Quels sont les défis pour attirer le public au cirque Bouglione ?
Eh bien, moi, je m'occupe des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc, on va dire que les réseaux sociaux, chez nous, servent forcément à attirer le public, à venir redécouvrir le cirque qu'on a peut-être oublié. vu qu'on n'a plus d'animaux, Cirque Bouglione. Et on organise aussi avec les clowns et Madame Loyal, qui est la présentatrice du spectacle, des petites vidéos humoristiques pour que le cirque continue à la maison et que les enfants peuvent découvrir avec les parents le soir en rentrant de l'école. Et donc, ben justement, ça nous permet de donner une nouvelle image du cirque, et voilà.
Bonjour Owen. En tant qu'ingénieur du son pour le cirque, comment travaillez-vous ? Avez-vous déjà envoyé le single de la musique du cirque ? Si oui, à la longue, est-ce qu'on s'en lasse ?
Bonjour. Alors c'est vrai que quand on est ingénieur du son, on a beaucoup de travail à faire et c'est très très technique. C'est vrai que c'est pour ça que nous au Cirque Nicolas Bouglione, on est deux ingénieurs du son et des lumières qui s'occupent avant, pendant et après le spectacle des réglages. Alors chez nous, non, on n'a pas le jingle du cirque traditionnel comme on l'entend, mais on a notre Madame Loyal qui chante durant tout le spectacle plusieurs chansons telles que aussi Aladdin, Ce rêve bleu, mais aussi Bienvenue, Welcome. Donc, alors est-ce que c'est répétitif ? Oui, parce qu'on entend tous les jours quand même pendant deux spectacles à chaque fois les mêmes chansons, mais on ne s'en lasse jamais parce qu'on a toujours ce rêve et cette passion en fait de la transmettre à notre public. Donc pour nous c'est aussi une priorité de faire en sorte que notre spectateur entende bien sans être trop fort, mais qu'il peut un peu se relaxer et profiter pendant tout le spectacle.
Vous venez de nous parler de Madame Loyal. Pouvez-vous préciser ?
Notre Madame Loyal, c'est notre fil conducteur du spectacle. C'est elle qui amène l'artiste en piste pour le présenter, mais aussi pour amener avec les clowns un petit moment de rigolade après un numéro pour un peu descendre la tension et pour chanter une chanson ou pour amener l'artiste.
Oui, parce qu'à la base, c'était le nom de famille de la première personne qui avait présenté les spectacles de cirque, donc un monsieur Loyal. Et le nom est resté et ça a donné vraiment le nom à ce personnage qui est devenu au fil du temps le personnage présentateur de chaque cirque.
Bonjour Valentina. Est-ce que tu as parfois peur pendant un numéro ou comment tu gères le stress ou le vertige ?
Alors effectivement, j'ai un numéro aérien de sangle aérienne, donc à plusieurs mètres du sol. Et donc heureusement pour moi, je n'ai pas le vertige. Mais quand on a créé ce numéro, parce que au départ, je suis danseuse, donc je dansais au sol, et ça fait 3 ans maintenant que je fais ce numéro en aérien. Mais au départ, quand on était en train de le créer, on a eu des petits, heureusement pas grave, mais des petits accidents. C'est arrivé de faire des chutes, un peu des petites cascades, on va dire. Et du coup, là, oui, ça fait monter un peu le stress. Et des fois, au départ, quand on faisait les premiers spectacles après la création du numéro, oui, il y avait certaines figures qui pouvaient me stresser ou me faire peur. Après, maintenant, en ayant acquis l'expérience, c'est plus de l'adrénaline et de la joie de faire de la performance et de transmettre plutôt que du stress.
Valentina, est-ce que vous êtes accrochée quand vous faites votre spectacle ?
Alors, on est accrochée, on se tient avec les mains à nos sangles, mais on n'a pas quelque chose qui nous retient. C'est à la force de nos mains et de nos bras.
Donc si vous tombez, vous tombez.
Oui.
Jusqu'à quelle hauteur montez-vous quand vous faites vos numéros ?
Alors ça peut dépendre des figures, parce qu'il y a quand même une chorégraphie et la musique à suivre, à respecter. Mais on varie entre 4, 5, 6. Owen me disait peut-être même 8.
Comment tu arrives à concilier la vie d'artiste, les voyages, les entraînements et ton rôle de maman ?
Alors c'est un challenge, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, mais ça va, on gère. On est avec mon mari, du coup le papa de, il a 3 ans et du coup c'est tout un puzzle à faire quotidiennement. Donc quand on a 2 spectacles, on a moins le temps de s'entraîner. Puis après, ça dépend des jours, mais il y a certains jours où on a 1 spectacle, certains où on en a 2, notamment les week-ends. Et puis, selon si c'est les vacances scolaires ou pas, on peut avoir des jours libres, par exemple en début de semaine, comme là, lundi, mardi. Donc dans ces cas-là, on prend plus le temps de s'entraîner. Et ensuite, quand c'est les phases de voyage, c'est vraiment le cirque est démonté, donc c'est vraiment tout se concentre sur le déplacement. Et sinon, quand le cirque est monté et qu'on est stable, mettons 1 mois dans une ville, ça s'alterne un peu au feeling, on va dire, selon combien de spectacles on a dans la journée. Et là, Nilo, donc mon petit, vient de commencer tout juste à aller à l'école, donc c'est une nouvelle expérience, donc on l'amène aussi, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de temps le matin pour s'entraîner, et c'est quand même chouette.
Quelqu'un ou quelque chose vous a-t-il incité à travailler dans le monde du cirque? Si oui, qui ou quoi, comment, pourquoi?
Alors moi, du coup, quand j'étais vraiment petit, donc que j'étais enfant, mes parents m'emmenaient voir le cirque Bouglione, justement. C'est ce que j'ai aimé. J'ai tout de suite accroché au monde du spectacle. Donc j'ai commencé à faire de la magie et j'ai toujours voulu travailler sur scène, travailler dans un cirque surtout. Puis ben malheureusement je n'ai pas pu apprendre, aller dans une école de cirque, etc. Donc j'ai fait des études de communication, ce qui m'ont permis de travailler maintenant au cirque Bouglione.
Alors moi je rejoins un peu Thomas, vu que moi aussi j'ai eu cette passion en étant enfant d'aller voir le cirque Bouglione au Ezel à l'Atomium. Donc c'est en fait par hasard, si je peux dire ça, que je suis tombé chez Nicolas Bouglione, aussi d'une part grâce à Thomas. Donc oui, pour moi c'est aussi une fierté, entre guillemets, de pouvoir travailler avec mon idole d'enfance, parce que malgré tout, Nicolas était un idole que j'appréciais et que j'admirais énormément en tant qu'enfant. Donc oui, je peux dire que c'est grâce à Thomas aussi un peu que je suis dans le cirque Nicolas Bouglione.
Moi c'est un peu différent, parce que j'ai été en France, je travaillais déjà dans un cirque à Lyon, mais qui est permanent, donc un autre système, et j'étais là-bas en tant que danseuse et échassière, mais je ne faisais pas encore de numéros de cirque, de numéros aériens comme maintenant. C'est là-bas que j'ai rencontré du coup mon mari, qui lui était déjà dans le milieu du cirque et qui avait tout le temps des contrats un peu partout. Quand on a terminé là-bas, et du coup on a décidé de monter notre numéro, c'est là où je suis arrivée ici, donc à travers lui, qui m'a fait rencontrer le cirque Nicolas Bouglione, parce qu'il avait déjà travaillé auparavant. Et on a créé justement notre numéro chez Nicolas Bouglione il y a 2 ans, pour revenir cette année avec ce duo.
Quand vous dites danseuse et chassière, vous chassiez les animaux?
Non, les échasses. Alors, c'est comme des très grandes jambes. Peut-être que tu as vu des images avec soit en bois, soit maintenant c'est en aluminium, mais c'est quelque chose qui permet de monter très haut et de faire des personnages très grands.
Si vous n'étiez pas dans le monde du cirque, dans quel domaine aimeriez-vous travailler et pourquoi?
Moi, en soi, j'ai toujours voulu travailler pour le cirque. Donc, il y en a qui rêvaient, qui rêvent d'être maçon, il y en a qui préfèrent être électricien. Moi, je préférais travailler dans le monde du cirque. Et c'est vrai que quand on est enfant, on se dirait que le monde du cirque est un milieu un peu fermé, qu'on ne peut pas y accéder facilement si on ne fait pas du cirque. Et ben non. Et donc ben voilà, moi ça, depuis que je suis petit, ça a toujours été le cirque.
Pour moi, je viens d'être diplômé en fait en hôtellerie juste l'année passée. J'ai toujours eu cette passion grâce à mon cousin aussi d'être en cuisine ou servir en salle le vin, etc. Donc c'est vrai que c'était un grand changement quand je suis venu rejoindre le cirque, parce que j'ai toujours eu cette admiration en fait aussi pour la restauration. Mais je me suis dit que voilà, c'est aussi une opportunité pour moi de travailler avec Nicolas. Mais c'est vrai que si je n'aurais pas été au cirque, je pense que je serais quand même resté dans la restauration, éventuellement perfectionner ma maîtrise dans la viniculture, donc par rapport au vin. Donc je pense que oui, j'aurais été sommelier au lieu de circassien.
Et moi, du coup, je pense que je serais resté quand même dans l'univers artistique, puisque justement j'étais déjà dans la danse. Donc oui, après ça va quand même de pair et c'est très compatible. Mais si je n'avais pas été dans le milieu du cirque, je pense que oui, je serais restée dans le milieu de la danse, du théâtre.
Nous savons qu'au cirque, il est coutume d'être multitâche. Est-ce que c'est difficile et quelles tâches préférez-vous faire?
Alors difficile, non. Maintenant, il faut savoir être bien organisé. Donc moi, il faut savoir du coup que je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet. Je vends les tickets également à l'entrée du cirque. Donc difficile, non, tant qu'on est organisé. Et qu'est-ce que je préfère? Honnêtement, tout. Tout. Sauf quand il pleut. Ça, j'avoue que c'est un peu moins agréable.
C'est vrai, l'organisation est, je pense, le mot-clé pour cette question. Parce que sans organisation, je pense que tu peux très très facilement t'y perdre. Donc je vais exactement rejoindre ce que a dit Thomas. Peut-être que moi, voilà, c'est peut-être mon travail mère, mais la régie, ça a toujours été quelque chose que j'adorais aussi. Donc la tâche que j'aime faire, oui, c'est m'occuper du spectacle, le son et la lumière.
Et je vais rejoindre aussi mes collègues par rapport à l'organisation, bien sûr. Après, c'est aussi voilà, la rapidité, la gestion voilà, du temps. Par exemple, moi, j'ai 2 numéros. Un dans la, parce que là, tout à l'heure, je parlais du numéro aérien, mais je suis aussi dans le numéro de mon mari qui est danseur sur corde, funambule, on va dire comme ça. Et du coup, j'interviens dans son numéro qui est en première partie. Et dans la deuxième partie, on a notre duo. Et voilà, donc au départ, avant le spectacle ou à l'entracte, on peut vendre. Donc c'est vrai qu'il faut un peu courir. Évidemment, ce que je préfère, c'est être sur scène. Mais après, c'est aussi chouette d'avoir le contact avec le public avant, après. Voilà, de les voir de plus près. Ça, c'est aussi agréable d'avoir un échange à l'extérieur et pas uniquement sur scène et public.
Racontez-nous une journée au cirque. Comment travaillez-vous ?
Ben moi, j'ouvre la caisse. Du coup, j'accueille les spectateurs qui ont ou qui n'ont pas encore leur ticket. Je conseille du coup les catégories de places, si on veut voir le mieux ou pas. Je travaille en même temps sur mon ordinateur, donc je prépare tout ce qui va être les visuels, les images pour les réseaux sociaux, faire du montage vidéo, etc. Je cherche des nouvelles idées, je réponds aux commentaires, aux messages, aux appels. Puis quand le spectacle a commencé, je vais sous le chapiteau pour regarder un peu si tout se passe bien, rêver aussi également. Et quand le spectacle est fini, ben voilà, je ferme la caisse et on regarde que tout est bien rangé, que tout est propre et on peut aller se reposer dans la caravane.
Pour ma part, c'est un peu plus compliqué. Vu qu'on est deux ingénieurs, c'est Yves qui s'occupe de regarder si tout se passe bien, si on peut ouvrir les portes, s'il n'y a pas une machine qui est défectueuse ou que le son ne va pas. Si on a un problème, bien évidemment, on va essayer de le régler le plus rapidement possible, hein, même pendant le spectacle. Et sinon, moi, je m'occupe aussi de l'accueil. Donc, j'accueille les gens, je regarde s'ils ont bel et bien leur ticket. Je les informe s'ils ont un problème et une fois que les portes sont ouvertes, je monte à la régie pour m'occuper du spectacle et une fois que le spectacle est fini, on remballe les affaires, on éteint le chapiteau et on va dormir.
Pour moi, du coup, ça se passe le matin, soit on va s'entraîner, soit je m'occupe de mon petit selon les jours. Et ensuite, préparation, donc maquillage. Et soit, alors, si c'est une période où je vais vendre à l'accueil, la partie à chapiteau d'accueil où il y a les pop-corns, les barbes à papa, les ventes. Donc, je peux donner un coup de main là-bas. Sinon, c'est directement le spectacle. Et après, voilà, il y a un numéro dans la première partie, un numéro dans la deuxième partie. Et s'il y a un deuxième spectacle, on continue, on enchaîne. Et voilà, généralement, c'est toujours dans l'après-midi, donc vers 19h30, 20h, on a terminé.
Où se situe pour vous la frontière entre métier et loisirs ? Y en a-t-il vraiment une ?
Alors de mon côté, moi je dirais qu'on va dire la mini-frontière, c'est quand on rentre dans notre caravane, qu'on va se reposer le soir. Mais en même temps, je dirais, de mon point de vue à moi, qu'il n'y a pas vraiment de frontière en fait. Parce que quand on se lève le matin, qu'on ouvre la porte de la caravane, on voit le chapiteau. Et puis moi je suis quelqu'un de fort passionné, je pense comme nous tous dans l'équipe. Même les artistes, on est tous passionnés par ce qu'on fait, donc on n'a pas vraiment de transition entre métier et loisir parce qu'on aime ce qu'on fait, donc on ne considère pas vraiment qu'on travaille, justement nous on fait rêver comme on dit souvent, donc moi en tout cas de mon côté il n'y a pas vraiment de transition, je m'amuse, je rêve et je fais ce que j'aime à longueur de journée, même le soir je suis toujours au cirque. Et c'est un plaisir de se coucher comme ça.
C'est vrai qu'on est aussi l'un des rares métiers qui vivons aussi sur notre lieu de travail. Donc comme a dit Thomas, tu ouvres ta porte de chez toi et tu es directement sur ton lieu de travail. Mais c'est aussi un avantage parce que tu vis en fait pendant une année avec les mêmes personnes, que tu crées des liens, tu crées entre guillemets une famille en fait. Et c'est ça aussi qui est très très chouette, vu qu'après le spectacle, généralement, on se rassemble tous autour d'un feu pour discuter ou pour manger un barbecue. Donc c'est vrai que cette frontière, moi je dirais qu'elle n'existe pas vraiment dans notre métier, parce que comme j'ai dit, c'est une grande famille. Je perçois plus ça comme une famille que comme du travail.
Oui, je vais rebondir là-dessus aussi. Et voilà, c'est même plus qu'un loisir, je dirais, c'est vraiment une passion. Bon, comme beaucoup dans les métiers d'art, c'est le cas. Mais oui, on est quand même tout le temps en train de, même quand on ne travaille pas, on va parler de ce qui s'est bien passé, ce qu'il faut améliorer, notamment dans les numéros, mais aussi en général, s'il y a un problème avec un costume. Voilà, parce qu'il faut savoir, on les fait ou on les fait pas, mais en tout cas on les customise, on va dire. Donc voilà, soit à régler des choses sur les costumes, les lorer, ou imaginer comment aller plus loin dans un numéro. On a commencé par exemple à faire d'une façon, et puis pour le faire évoluer, l'améliorer de plus en plus. Voilà, on continue d'alimenter tout ça. Et donc oui, même quand on ne travaille pas, notre esprit est vers notre travail parce que c'est aussi notre passion.
Juste me permettre de dire une dernière chose. Faut savoir que chez Bouglione, donc Bouglione, c'est un vrai nom de famille, c'est les Bouglione. Et Nicolas, par exemple, le directeur, est la 8e génération de la famille Bouglione. La passion du cirque se transmet de génération en génération. Et donc forcément, je pense que Nicolas nous attribue, en tout cas Owen et moi, quand nous sommes arrivés dans le cirque, cette passion pour le cirque, que ses grands-parents, arrière-grands-parents et ses ancêtres ont pu transmettre. Et donc voilà, pour rebondir à ce que Valentina et Owen ont pu dire aussi, en tout cas, chez Nicolas Bouglione, faire du cirque, c'est une passion.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur www.radioalma.eu/gazette. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle gazette à la même heure.